السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من مات له سقط. Le chapitre suivant, chapitre celui qui perd un enfant au cours d'une fausse couche. السقط, on dit également السقط, c'est l'enfant qui meurt dans le ventre de la mère avant de sortir. Contrairement à celui qui naît, vivant, puis meurt quelque peu après. As-Sakt, il s'agit de l'enfant qui décède avant de sortir. À travers ce chapitre, l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala souhaite mentionner qu'il y a une différence entre l'enfant qui décède après être sorti du ventre de sa mère et qui est concerné par tous les hadiths mentionnés précédemment, et l'enfant qui décède dans le ventre de la mère. Et sachez, là n'est pas notre sujet, mais dans le fiqh, dans les règles de jurisprudence et les jugements rattachés à la perte de l'enfant, il y a une différence lorsque l'enfant décède après 4 mois et avant. Car après 4 mois, l'âme est insufflée. Il est donc vivant. L'âme est insufflée. Puis, il y a une différence de jugement avant qu'il soit dessiné dans le ventre de la mère, c'est-à-dire qu'on puisse distinguer les mains et les pieds et autres, et après cela. Donc dans le cas où la fausse couche a lieu avant que l'enfant soit dessiné, il n'y a pas de jugement relatif, par exemple, au sang qui s'écoulera par la suite. La femme se nettoie, elle met une protection, elle peut prier, son mari peut l'approcher. Par contre, si l'enfant, ou si l'embryon est dessiné, si l'embryon est dessiné, qu'on distingue de ses membres, alors le sang qui s'écoulera sera du sang impur, elle ne priera pas, elle ne jeûnera pas, son mari ne pourra pas commercer avec elle. Puis, le troisième niveau, c'est après 120 jours. Dans le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'à ce moment-là, que l'âme est insufflée. L'âme est insufflée. Donc il y a différents jugements. La femme qui est éprouvée par cela doit questionner ceux qui savent afin de savoir si elle prie ou non, si elle jeûne ou non, si son époux peut commercer avec elle ou non. Ça, c'est le premier sujet. Le second sujet, c'est concernant le traitement de l'enfant qui est décédé. Est-ce qu'il faut le laver? Est-ce qu'il faut le mettre dans le linceul? Est-ce qu'il faut l'enterrer? Est-ce qu'on lui donne un nom? Est-ce qu'on sacrifie pour l'aqiqa, la bête pour l'aqiqa, et ainsi de suite? Beaucoup de savants disent, s'il a dépassé 4 mois, l'âme est insufflée, alors on le lave, le met dans le linceul, on l'enterre. Et on peut faire l'aqiqa et le nommer. On peut faire l'aqiqa, sacrifier la bête et le nommer. D'autres disent que cela est restreint à l'enfant qui est né vivant puis est décédé. Wallahu a'lam. Quant au hadith, an Abdillah radiallahu anhu, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم مال وارثه أحب إليه من مالي. قالوا يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعلموا أنه ليس منكم أحد إلا مال وارثه أحب إليه من ماله. مالك ما قدمت، ومال وارثك ما أخرت. D'après Abdullah, il s'agit de Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, lequel d'entre vous préfère l'argent de son héritier à son propre argent? Ils répondirent, ô messager d'Allah, pas un d'entre nous ne préfère l'argent de son héritier à son propre argent. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a alors dit, sachez alors qu'il n'y en a aucun parmi vous qui ne préfère pas l'argent de son héritier à son propre argent. Votre argent est celui que vous avez avancé, et l'argent de votre héritier est celui que vous avez économisé en ce bas monde. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne une méthode pédagogique pour transmettre le savoir et enseigner la science. Une méthode qui va attirer pleinement l'attention des étudiants, des élèves, des interlocuteurs. Et on va l'entraîner à s'élever dans la compréhension et à capter pleinement la profondeur des mots, des termes, des sens. Ce qui lui fera prendre de la hauteur, de la science et de l'éducation. Donc voici ici, où nous, on a ici une excellente manière de transmettre la science d'une voie très simple. D'une voie très simple, qui est de poser une question sur une chose connue et reconnue, et dont le sens linguistique est à la portée de tous. Puis, on lui dit non, ça n'est pas le sens de la chose, mais plutôt. Et on l'amène avec nous à un autre sens, même si le premier n'est pas faux, mais on l'amène avec nous à un autre sens qui est plus profond. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne la science sur l'argent, qui est réellement notre argent. Mais avant cela, voyons un autre exemple pour illustrer ce que l'on vient de dire. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux compagnons, « Atadruna man al-muflis ?» Savez-vous qui est le ruiné? Ils ont dit oui au messager d'Allah, le ruiné parmi nous, c'est celui qui n'a ni or, ni argent, celui qui n'a pas de bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, « Le ruiné parmi vous est celui qui viendra le jour de la résurrection » avec des hasanats, comme des montagnes. Mais il a frappé un tel. Il a fait couler le sang d'un tel. Il a pris l'argent d'un tel. Il a nui à l'honneur d'un tel. Alors ils viendront et ils prendront de ses hasanats. Et lui, il prendra ses hasanats. Et l'autre, il prendra ses hasanats. Et s'il ne lui reste plus de hasanats, alors ils vont se décharger sur lui de leurs péchés, jusqu'à ce qu'il tombe en enfer. Lorsqu'il leur a demandé, savez-vous qui est le ruiné? C'est une évidence. Tout le monde sait ce que signifie être ruiné, ne plus avoir d'argent. Ce sens-là était bon, mais il veut les entraîner à un sens plus profond. Il veut leur donner une éducation. Il leur dit non, le ruiné, c'est celui qui arrive le jour de la résurrection. C'est-à-dire réellement celui qui prend la plénitude de ce terme, de ce mot, c'est celui qui arrive yom al-qiyama avec plein de hasanat. Mais il a fait de l'injustice aux serviteurs d'Allah, alors il le dépouille de ses hasanat. Plus étonnant, s'il n'a plus de hasanat, ils lui mettent leur péché dessus, jusqu'à ce qu'il tombe en enfer. Allahu Akbar. Là, le prophète, alayhi salatu wa salam, utilise exactement cette pédagogie. Il leur demande, qui préfère l'argent de son héritier à son propre argent? Ils ont répondu, nous tous. Il n'y en a pas un parmi nous qui préfère l'argent de ses héritiers. Tout le monde préfère son propre argent, celui duquel il peut disposer comme il veut, celui qu'il a gagné, et ainsi de suite. Celui qu'Allah Azzawajal lui a facilité. Et là, lorsqu'ils répondent, il leur dit, ben, détrompez-vous. Vous tous, vous préférez l'argent de vos héritiers. Pourquoi? Parce que l'argent de vos héritiers, en réalité, c'est celui que vous avez gagné dans ce bas-monde, mais sans le dépenser pour Allah. L'argent de vos héritiers, c'est celui que vous avez obtenu dans ce bas-monde, mais vous ne l'avez pas dépensé pour Allah. Que se passera-t-il? Vous allez mourir. Vous allez quitter ce bas-monde. Et qui va disposer de cet argent? C'est vos héritiers. Donc votre argent, en réalité, c'est lequel? C'est celui que vous avez utilisé pour la cause d'Allah. En réalité, vous l'avez avancé dans l'au-delà et vous allez le rencontrer. Donc il reste avec vous. Il fait partie de vos bonnes œuvres. Il reste avec dans votre tombe, il est là. Yom al-Qiyamah, il est là. Donc en réalité, ton argent, c'est quoi? C'est celui que tu as avancé pour Allah dans l'au-delà. Parce que ce bas-monde, tu vas le quitter. Et tu vas être ressuscité Yom al-Qiyamah. Voici une éducation, na'am, des plus sages et des plus pédagogues. Donc pour reprendre le hadith, ils ont répondu tout naturellement au messager d'Allah, pas un d'entre nous ne préfère l'argent de son héritier à son propre argent. Qu'est-ce qu'ils ont compris? Ils ont compris le sens apparent. C'est-à-dire, on a nos biens dans notre main, notre héritier a ses biens dans sa main, je préfère ce que j'ai dans ma main. C'est naturel. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a montré que ça n'est pas là la réalité ou ça n'est pas là la compréhension de notre argent. Comment comprendre le terme notre argent? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, ben dans votre perception des choses, en réalité vous préférez l'argent de vos héritiers. Parce que vous préférez l'argent que vous avez amassé, réuni, thésaurisé, économisé. Vous le préférez celui-ci. Mais en réalité, vous allez l'abandonner ici et il sera partagé à vos héritiers. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon leur compréhension, leur a dit alors vous préférez l'argent de vos héritiers. Puis il leur a donné la science de dans cet enseignement. Il leur a donné la leçon en disant votre argent est celui que vous avez avancé. Maluka. En réalité, ton argent, c'est ce que tu as avancé. Avancé où? Avancé pour l'au-delà. Avancé pour l'au-delà. Naam. Ya ayyuhalladhina amanu ttaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dans sourate Al-Hashr, ô vous qui avez cru, craignez Allah et que chaque âme regarde ce qu'elle a avancé. Pour demain, demain c'est-à-dire Yom al-Qiyamah. C'est tellement proche qu'on l'a appelé demain. Mais remarquez le terme, qaddamat, avancer. Les œuvres que tu fais, tu les avances en réalité pour demain. Tu prépares ton au-delà. Ce bas-monde, mazra'atul akhirah. Ce bas-monde, c'est le champ de labour et la récolte aura lieu Yom al-Qiyamah. C'est pour ça qu'un des noms du jour du jugement dernier est Yom al-Tarabun, le jour de la grande perte. Parce qu'il y en a qui vont réussir la récolte, et il y en a qui vont perdre. Il y en a qui vont être ruinés. Donc, le prophète sallam attire bien leur attention en disant « I'lamu », sachez. Sachez, c'est un terme qu'on utilise pour attirer l'attention de l'interlocuteur et le prévenir que ce qui va venir après est d'une haute importance. Dans le Coran, « Wa'alamu annakum » sachez que vous êtes amené à le rencontrer, c'est-à-dire Allah yawm al-qiyam. I'lamu annama al-hayatu ad-dunya la'ibun wa lahu. Sachez que ce bas monde, c'est un lieu de jeu, d'amusement. Naam. Fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbik. Sache que nulle divinité n'est réellement digne d'être adorée si ce n'est Allah et demande pardon pour tes fautes. Donc, il attire leur attention et leur donne ce savoir. Maluka ma qaddamt. Donc on doit tous méditer sur cette parole. Ton argent, c'est ce que tu as avancé. Tout ce que tu as dépensé pour Allah subhanahu wa ta'ala, dont tu espères la récompense chez Allah, sache que c'est ça en réalité ton argent. C'est ça qu'il te reste. Et un jour, le prophète alayhi salatu wa salam, a fait sacrifier une bête. Il a dit à Aïcha radiallahu anha de la distribuer fi sabilillah. Lorsqu'elle Et revenu, il lui a dit, que reste-t-il de la bête? Elle a dit, il ne reste que l'épaule. Il lui a dit, non, il reste tout sauf l'épaule. Il lui a dit, non, il reste tout sauf l'épaule. C'est-à-dire, tout ce que tu as donné, en vérité, c'est ce qu'il nous reste chez Allah. Allahu Akbar. Ça, c'est une tarbiyah najiha, dhakiyya. C'est une éducation très intelligente, très pédagogue. Imagine si tu donnes des pièces à ton enfant et tu lui dis aujourd'hui tu vas faire des sadaqat. Naam. En entrant au marché, il y a beaucoup de gens dans le besoin et il donne une pièce à un tel, il donne une pièce à un tel, il donne une pièce à une telle, il donne une pièce à une telle. À la fin, tu lui dis que reste-t-il? Et tu lui as donné 5 pièces. Et il te dit, ah, il ne reste qu'une pièce. Tu lui dis, non. Il reste 4 pièces. Tout ce que tu as donné, Allah Azzawajal, il va te le donner, il te multiplie au Mal-Qiyamah. T'imagines, il grandit dans ça? Khair. Il grandit dans une éducation. Lorsqu'il va et tu lui donnes des bons, tu le distribues aux voisins. Non, mais il a 10 bonbons. Et qu'il compte, et que en revenant, il dit, il m'en reste que 2 pour moi maintenant. Tu lui dis, non, il t'en reste 8. Allah Azzawajal, il va te donner plus encore, il va te multiplier. 80 au minimum, tu en as. Et l'enfant, il grandit dans ça. Il va devenir généreux, il va grandir avec l'espoir toujours de ce qu'il y a auprès d'Allah. Il va aimer donner, il va être aimé dépenser pour la cause d'Allah. Il va être prémuni de quoi? De l'avarice. Naam, il va être prémuni de l'avarice. Puis le prophète, alayhi salam, nous dit, « Wa mal warithik ma akhart. » Quant à l'argent de tes héritiers, c'est ce que tu as retardé. C'est-à-dire ce que tu as laissé ici dans ce bas monde sans le dépenser pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voici la compréhension et voici la leçon, na'am, de la question de nos biens. La question de nos biens. Pourquoi est-ce qu'on préfère notre bas monde à l'au-delà? Parce qu'on a œuvré pour ce bas monde. Parce qu'on a investi dans ce bas-monde. Et pourquoi est-ce que Sahaba, les plus prédécesseurs, ont préféré l'au-delà? Parce qu'ils ont construit leur au-delà. Donc celui qui travaille pour ce bas-monde, il construit des maisons, et il prend un travail, puis deux travails, il économise 1 000 euros, puis 10 000 euros, puis 100 000 euros, puis 1 million, puis, ben forcément, il est dans les meilleures conditions. Alors il aime son bas-monde, c'est tout à fait naturel. Mais c'est pas ça le problème, c'est pourquoi il n'aime pas l'au-delà, pourquoi il n'aime pas le retour vers Allah, parce qu'il n'a pas construit. Et la calamité, elle est là. Non, la calamité, elle est là. C'est de ne pas aimer l'au-delà parce qu'on n'a pas bien agi, parce qu'on n'a pas construit. Tu dis Subhanallah wa bihamdi, on te plante un palmier au paradis. Combien de palmiers de paradis on a raté? Combien de palmiers au paradis on a raté? Non. La terre du paradis est vierge. Et pour la nourrir, pour la construire, c'est les bonnes œuvres. C'est le zikr. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Non. Et ma'adha, un hadith, subhanallah, que j'ai appris vendredi lors de la préparation du cours. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Bakhin, Bakhin. Naam. Yani Bakhin, c'est un mot, une expression qu'on utilise pour dire que c'est une grande chose et que les gens vont l'envier. Naam. Ou pour féliciter. Qu'a-t-il dit? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha Allah, wallahu akbar, walwaladu salihu yamut yahtasibuhu al-abd. Allahu akbar. Bakhin, bakhin, quoi? Ces paroles-là, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, et l'enfant pieux qui décède et les parents espèrent dans l'endurance la récompense auprès d'Allah. Naam. On a mis avec les meilleures paroles, les plus aimées chez Allah, les plus aimées du Prophète sallam, on a mis l'enfant pieux qui décède et les parents espèrent sa récompense. Naam. Donc, voici la réalité de tes biens, ce qui t'appartient et ce qui en réalité appartient aux autres. Pourquoi est-ce que l'imam al-Bukhari a mis ce hadith sous ce chapitre, alors qu'on parle de celui qui perd un enfant dans le ventre? Certains ont expliqué en disant que la fausse couche, suivi de l'endurance et de l'ihtisab, l'espoir de la récompense chez Allah Azza wa Jal, ça fait partie des biens qu'il a avancés pour demain. Ça fait partie des choses qu'il a avancées, qu'il va rencontrer Yom Al-Qiyamah, des hasanats qui l'attendent. Na'am, barakallahu fikum. Le hadith suivant, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعدون فيكم الرقوب قالوا الرقوب الذي لا يولد له قال لا ولكن الرقوب الذي لم يقدم من ولده شيئا. Il dit, c'est-à-dire Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: qui est considéré auprès de vous comme étant stérile? Ar-raqoub. Ils répondirent: celle qui n'enfante pas. Personne stérile, c'est celle qui n'enfante pas. Il répondit: non. Plutôt Ar-Raqoub est celui qui n'a perdu aucun enfant de son vivant. Celui qui n'a perdu aucun enfant de son vivant qu'il a avancé. Il n'a perdu aucun enfant de son vivant qu'il a avancé. À nouveau, on voit dans ce hadith la méthodologie du prophète alayhi salatu wassalam et sa pédagogie. Et sa pédagogie. Que dit-il? Il interroge. Il interroge. Ma ta'udduna fikum ar-raqub. Qui considérez-vous comme étant stérile? Na'am, selon vous, qui est la personne qui peut être qualifiée de stérile? Ils répondirent: celle qui n'enfante pas. Ils répondirent: celle qui n'enfante pas. Est-ce que c'est une bonne réponse ou non? Oui, c'est une bonne réponse. Ar-Raqoub, dans la langue arabe, est la personne qui n'enfante pas. Et pourquoi est-ce qu'on l'a appelé Ar-Raqoub? Il y a la notion de muraqaba, de surveillance, d'attente, de. Parce que à chaque maza, chaque mois, chaque fois que yani, sa période s'interrompt ou cesse, elle espère tomber enceinte. Donc elle surveille et elle attend ce moment, comme si elle scrutait l'arrivée de l'enfant. C'est pour cela qu'on l'a appelé Ar-Raqoub. C'est pour cela qu'on l'a appelé Ar-Raqoub. Naam. Donc ils ont répondu selon le sens linguistique, selon le sens connu et abba. Mais le prophète, alayhi salatu wassalam, comme on l'a dit tantôt, souhaite les élever au-dessus de ce sens, pour leur faire prendre de la hauteur et de la profondeur. Il leur dit alors, là, il leur dit non. Walakin ar-raqoub, mais en réalité, la réalité du sens, la personne qui prend le plus la réalité, la plénitude de ce sens, alladhi lam yuqaddim min waladi shay'a, c'est celui qui n'a rien avancé comme enfant. C'est-à-dire celui qui n'a perdu aucun enfant, duquel il espérera la récompense de l'endurance chez Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Quelle éducation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam. La personne perd un enfant et elle se montre endurante. Elle se montre endurante et elle espère qu'Allah Azza wa Jal la rétribue de la plus grande récompense le jour de la résurrection, car elle s'est montrée réellement serviteur d'Allah, servante d'Allah, et que réellement elle a agréé Allah pour Seigneur. C'est-à-dire, Ya Allah, tu es mon maître, mon Seigneur. C'est toi qui donnes et c'est toi qui reprends. C'est toi qui élèves, c'est toi qui rabaisse. C'est toi qui dispense tes grâces comme tu le veux. Et moi, je me soumets à ta volonté, à ta décision, et je l'accepte totalement. Et je t'ai agréé comme maître et comme seigneur. J'espère donc la récompense à travers ce malheur qui a été décrété avec science et avec sagesse. Avec science et avec sagesse. Donc elle n'attend de ce malheur que quoi? Que la récompense.
Contrairement à celui qui n'a pas été éduqué sur la table du Coran, de la Sunna. Pourquoi moi? Et la personne se révolte, elle se griffe le visage, elle se tire les cheveux, elle se roule par terre, elle se déchire le col, et ainsi de suite. Tout cela fait partie des lamentations des grands péchés proscrits en islam. Naam, le prophète alayhi salatu wa salam nous dit, celle qui fait les lamentations, si elle ne se repent pas, le jour de la résurrection, elle portera une robe de goudron. Une robe de goudron. Wal'iyadu billah. Donc voici pour ce hadith. Le hadith suivant. قال toujours selon Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu wa qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ma ta'udduna fikum as-sur'a qalu huwa alladhi la tasra'uhu ar-rijal fa qala la walakin as-sur'a alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: qui considérez-vous comme la personne la plus forte dans la lutte, celle qui terrasse ses adversaires? Nul ne peut la battre, nul ne réussit à la mettre au sol. Ils répondirent: c'est celle qui n'est pas terrassée par les hommes. C'est celle que les hommes n'arrivent pas à battre, n'arrivent pas à mettre au sol, n'arrivent pas à maîtriser, à dominer. Il répondit, non, plutôt la personne forte est celle qui se contient quand elle est en colère. À nouveau, on voit cette pédagogie, cette méthodologie de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était lettré? Est-ce qu'il savait lire, écrire ce qui était noté? Non. Naam. Et parfois, tu trouves des personnes qui ont fait de longues études et qui ont eu des doctorats et sont professeurs, mais ils n'ont pas la bonne pédagogie. Ils n'ont pas la bonne pédagogie. La bonne pédagogie, elle a lieu avec la transmission. Elle a lieu avec l'éducation. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça n'est pas un défaut le concernant, ça n'est pas une naqisa, ça n'est pas une imperfection. Parce que le but de l'étude, c'est quoi? C'est d'atteindre la science. Mais Allah Azza wa Jal lui a directement révélé la science. Et il l'a éduqué. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est devenu le meilleur des éducateurs. Lorsque tu étudies son hadith, si tu es enseignant, que ce soit dans le din, que ce soit dans la dunya, subhanallah, tu apprends la pédagogie. Tu apprends la pédagogie. Dans combien de hadiths prophétiques on apprend? Ici, on tire le fait de faire cours comme ça, le fait de transmettre comme ça, le fait d'éduquer l'enfant comme ça, le fait de conseiller de telle sorte, de telle autre sorte. C'est une école, c'est une madrasa. C'est une madrasa. Naam. Et est-ce que cette méthodologie est connue dans les cours? Est-ce que vous avez souvenir, vous, de vos enseignants qui intervenaient de la sorte? Les meilleurs souvenirs que nous avons de certains enseignants, déjà ceux qui, dans lesquels il y avait, dans leur classe, de l'interaction. Il y avait un échange. Le cours était vivant. Mais là, on te pose une question, la réponse elle est évidente, tu réponds, puis on te dit non. Et on t'entraîne plus profondément, plus loin. Et c'est sûr que tu vas retenir, subhanallah. Et toi, à ton tour, tu pourras revenir avec ces devinettes-là. Auprès de ta famille, auprès de tes proches. Naam. Fala hawla wa la quwwata illa billah. Et la pédagogie, comme le disait notre cheikh Fahd, rahimahullahu ta'ala, il disait c'est un don d'Allah. Il y a l'apprentissage, il y a les études, mais au final, c'est un don d'Allah. C'est-à-dire que une personne plus faible qu'une autre dans la science peut être un meilleur enseignant, un meilleur professeur. Donc, qui considérez-vous parmi vous comme étant le plus fort? Comme étant le plus fort, celui qui terrasse ses adversaires, celui qu'on n'arrive pas à mettre au tapis. Naam, c'est As-sur'a, c'est quoi? C'est celui qui bat les autres. C'est celui qui met au sol les autres. C'est celui qui arrive à renverser les autres. C'est l'homme fort. C'est l'homme fort. Ils ont répondu, celle qui n'est pas terrassée par les hommes. La personne la plus forte, c'est celle qui n'est pas terrassée par les hommes. On n'arrive pas à le mettre au tapis, on n'arrive pas à le battre. Et là, il leur a dit, là, non. Là, je vais vous faire sortir d'un sens connu et reconnu, simple, à un autre sens plus profond qui vous donnera un meilleur enseignement et une grande leçon. Et une grande leçon. Qui est donc le plus fort? Naam. Et vous connaissez les enfants et les hommes et les mâles. Naam, ça c'est un sujet qui a la plus haute importance. Naam, quelle que soit la civilisation, quelle que soit l'origine, c'est qui le plus fort? Tout le monde va être le plus fort. Là, le prophète, alayhi salatu wasalam, nous donne la plus grande éducation dans le thème. Au préalable, c'était le thème de quoi? De l'argent. N'est-ce pas? Ensuite, le thème de la stérilité. Et là, le thème de quoi? Le thème de la force. Et de la domination. As-sur'ata alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. Le plus fort est celui qui se contient quand il est en colère. Celui qui se contient lorsqu'il est en colère. Voici la personne la plus forte. Si vous cherchez à être le plus fort, si vous cherchez Naam à être celle qui bat les autres. Si vous voulez devancer les autres, sachez que c'est là le secret, c'est là qu'est la leçon. Apprendre la maîtrise de sa personne. De manière générale, et plus particulièrement lors des pics de colère. Lors des pics de colère. Quant à celui qui est soumis à ses passions, qui est soumis à son âme, qui est enchaîné par le shaitan en réalité, qui est menotté par sa colère. En quoi a-t-il l'essence de la force et de la bravoure en islam? Parce que la réalité des sens, c'est ceux qui sont enseignés dans le Coran, ceux qui sont enseignés dans la sunna. Tout le reste, c'est secondaire, dans le cas où ça ne vient pas à l'encontre de nos préceptes religieux. Sinon, tout ce qui vient après, ça n'a aucune valeur. Si ça vient à l'encontre de nos textes, naam, ça n'a aucune valeur. La plénitude des sens, des termes qu'on prend, qu'on adopte, ceux sur lesquels on s'éduque et on éduque les autres, c'est ce qui passe dans le filtre du din. C'est ce qui passe dans le filtre du din. Il y a plein de grands mots comme ça qu'ils ont érigés, élevés. Par exemple, al-hurriya, la liberté. Al-sa'ada, le bonheur. Hein, des grands termes comme ça. Mais ils les dénaturent et ils leur font prendre des termes qui sont mauvais alors que ça peut être un terme louable à la base. Mais ils vont l'utiliser pourquoi? Al-Hurriya, par exemple, ils vont dire les enfants ont le droit de se rebeller contre les parents. Ils vont dire, au nom de quoi? Al-Hurriya. La liberté. Naam, c'est un garçon, d'accord? Il n'aime pas son nom, il veut un nom de fille maintenant. Ben, on lui donne un nom de fille. Au nom de quoi? Al-Hurriya, la liberté. Naam. Il veut insulter les dirigeants, il veut manquer de respect à tout le monde. Au nom de quoi? Al-Hurriya, la liberté. Donc ils ont pris des mots comme ça et ils les dénaturent et ils les pervertissent. Le mot, c'est pas ce qui compte le plus, c'est la réalité de son sens, premièrement, et ce que tu en fais. Et ce que tu en fais, tu peux changer 1000 fois des termes posés sur une chose, ça n'en changera pas la réalité. Ce qui prime, c'est la réalité de la chose et non pas l'appellation. Donc, qui est l'homme fort? Qui est l'homme fort? L'homme fort, c'est celui qui se contient, qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. Quant au faible, le faible, c'est celui qui est dominé par son âme. Il n'est pas maître de son âme, c'est son âme qui le maîtrise. Naam, son âme réussit à le tirer lors de la colère, donc à un état, s'il était face à un miroir, il se dirait qui est ce fou? Subhanallah, il dirait qui est ce fou? Mais c'est lui, lorsqu'il est en colère, hors de sa maîtrise. Il ressemble aux gens qui n'ont pas de raison. Sa langue, il ne la contrôle plus. Il devient vulgaire. Il utilise le mot des gens de la rue. Il devient vulgaire. En réalité, il perd sa force. Il ne domine plus son être. C'est son être qui le domine. Il ne domine plus son âme. C'est son âme qui le domine. Pire encore, son shaitan qui le domine. Celui au sujet duquel Allah te dit « Innahu lakum adu, fattakhidhu adwa » Il est pour vous un ennemi déclaré. Prenez-le donc comme tel. Il ne fait qu'appeler son parti à faire part. Il ne fait qu'appeler son parti à être des habitants de la fournaise. C'est celui-là que tu veux suivre. À lui tu confies ton âme et ton corps. À lui tu réponds et tu obéis. À lui tu te soumets. C'est comme s'il te tenait en laisse. C'est comme s'il te tenait enchaîné. C'est comme s'il t'avait menotté et qu'il te dirigeait par le toupet. C'est une humiliation. C'est une faiblesse. C'est une faiblesse. C'est une humiliation. Ici, le prophète alayhi salatu wasalam nous éduque à nous élever, à prendre de la hauteur, à devenir meilleur dans tous les thèmes et tous les sujets. Le musulman doit chercher à être le meilleur. Et il est malheureux de trouver que les parents ont été sensibilisés à faire devenir leurs enfants meilleurs que dans les études, que dans l'école. Il faut que tu sois le meilleur, il faut que tu sois le premier, il faut que ceci, il faut que ce... D'accord, mais pourquoi on n'utilise pas ça en plus de l'école? C'est une bonne chose. Mais pourquoi on ne l'utilise pas dans le reste? Il faut que tu sois le meilleur dans le comportement. Il faut que tu sois le meilleur avec tes parents. Il faut que tu sois le meilleur avec les voisins. Il faut que tu sois le meilleur en classe. Il faut que tu sois le meilleur au travail. Il faut que tu sois le meilleur dans le Coran, dans le Sunna, dans le Hadith, dans le... Subhanallah. Pourquoi se restreindre à un thème si on peut exceller dans plusieurs? Il faut chercher à être le meilleur. Si tu as trois langues, pourquoi pas apprendre une quatrième? Akada, essaye d'être le meilleur dans tout. Puis éduque tes enfants à être les meilleurs dans tout. Ici, le prophète sallam veut que tu atteignes la plénitude des sens dans plusieurs thèmes. Il veut qu'on devienne les meilleurs dans plusieurs choses. Et parmi les recommandations célèbres du prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'une personne lui a demandé la recommandation, il lui a dit « La tarbab, ne te mets pas en colère. » Faraddada miraran qala lahu la tarbab. L'homme a réitéré sa question. « Fais-moi des recommandations. » Il lui a dit « Ne te mets pas en colère. » À chaque fois qu'il lui posait cette question, il lui répondait « Ne te mets pas en colère. » Plus tard, il a médité, il s'est rendu compte que dans cette courte parole, il y avait la baraka et il y avait son bien dans ce bas monde et dans l'au-delà. C'est-à-dire, éloigne-toi des causes de la colère. Puis, si l'épreuve te touche, contiens-toi et applique ce qui t'est légiféré pour maîtriser ta colère. À savoir, fasta'idh billah. Dit « A'ouzou billahi minash shaytanir rajim ». Deuxièmement, le shaytan va t'exciter et te pousser et t'engager, t'entraîner dans ta perte. Qu'est-ce qu'il t'a légiféré? De couper son élan, de couper cet entrain. Par exemple, tu avances rapidement, cesse d'avancer. Tu es debout, mets-toi en position assise. Tu penses à faire un mal, va faire une adoration. Ça ne passe pas. Fais le wudu. Prie. Et là, tu auras humilié Shaitan et tu auras humilié ton ennemi ou celui qui t'a pris pour ennemi. Tu dois casser cet entrain donné par Shaitan. Tu dois casser cette excitation. Et quelle meilleure chose que la mention et le rappel d'Allah pour apaiser les cœurs? Allah n'a-t-il pas dit en Coran « Ala bi dhikrillahi tatma'innu al-qulub » N'est-ce point avec l'évocation d'Allah que les cœurs s'apaisent? Et là, lorsque tu vas faire ça, ou lorsque tu vas t'asseoir, ou lorsque tu vas retenir ta langue, Shaitan te dit, insulte-le. Naam, tu ne vas pas te laisser faire quand même. T'es pas un faible, t'es pas un. Là, elle est là l'épreuve. Est-ce que tu es fort ou est-ce que tu es faible? Est-ce que tu es le plus fort ou est-ce que tu es le plus faible? Comment est-ce que tu t'assieds? C'est pas un moment où il faut s'asseoir là. C'est un moment où il faut montrer à tout le monde qui tu es. Et ainsi. Le shaitan te susurre ces choses-là. Il te suggère ces insufflations sataniques. Et là, il peut t'avoir et te faire tomber dans quoi? Dans la honte et la gêne. C'est-à-dire, si je ne fais pas ça, je vais être pris pour quoi? Pour un faible, pour un couard, pour un lâche, pour. Non. Il te faut te contenir, te retenir, te maîtriser et ne pas faiblir. Endure. Endure. Patiente. Et pense à la récompense dans l'au-delà. Ici, il te parle du regard des gens. Toi, concentre-toi sur le regard du Seigneur des gens. Elle est là la clé du succès. Tous ces choses-là, ces sens, c'est par rapport à qui? Par rapport au regard des créatures. Ces créatures, elles étaient mortes, elles sont nées, elles vont mourir demain. Elles vont être ressuscitées, elles ne peuvent rien pour toi, ni te faire entrer au paradis, ni te sauver de l'enfer. Elles ne peuvent pas t'embellir, t'enlaidir. Il n'y a que Allah Azzawajal. Donc concentre-toi sur quoi? Ar-Raqib, sur Allah Azzawajal. C'est lui qui te surveille et c'est lui qui va te récompenser ou tu mériteras la punition auprès de lui. Donc si tu veux être le plus fort, endure. Ressens la surveillance d'Allah Azzawajal. Et si tu réussis à faire ça, si tu réussis à te contenir, ça va être amer sur le coup. Mais par la suite, Allah va mettre une grande joie dans ton cœur. Ça va être amer sur le coup, mais par la suite, Allah va te mettre une grande joie dans le cœur. C'est quoi? T'as battu ton ennemi Shaitan. Naam. Tu n'as pas causé plus de péché à la personne en face qui te provoquait. Et troisièmement, la récompense qui t'attend chez Allah Tabaraka wa Ta'ala. Naam. Ne réussit cela que les plus forts des hommes. Ne réussit cela que les plus forts des hommes. Et à travers ce hadith, tu vois la splendeur de l'islam. Tu vois la beauté de cette religion. La beauté de la sunna. Comment est-ce qu'elle éduque les gens à être meilleurs? Naam. À être saints, à être pieux, à purifier leurs âmes, à être sur le juste milieu, à être dans la piété, à être dans la quiétude, dans le repos, la tranquillité, et comment elle éloigne les gens. Et elle met un clivage et un rempart, un fossé entre eux et quoi? Et tout ce qui est la précipitation, le fait d'être volcanique et d'être, comment est-ce qu'ils disent? Sanguin, naam. L'islam éloigne de tout ça. Et ici, j'attire votre attention sur une erreur répandue. Sur une erreur répandue. Qui est. Qui est le fait de se trouver des excuses en se référant à ses origines. Certains disent, oui, mais chez nous, on est comme ça. Hein? Oui, mais chez moi, kada. Soit l'origine, c'est-à-dire le pays, soit l'origine, son foyer. Oui, mais chez nous, on est comme ça. Chez nous, les hommes sont comme ceci, comme cela. Donc, il veut déroger, se sortir des règles religieuses et s'encastrer et se loger et penser, se barricader en utilisant quoi? Tes origines, subhanallah. L'islam brise tous ces facteurs-là lorsqu'il s'agit de se soumettre aux ordres d'Allah. Il n'y a pas je suis un homme, je suis une femme, je suis telle origine, telle autre, blanc, noir, riche, pauvre. Non, tout le monde est amené à se soumettre à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci est une erreur. Le fait de justifier ça par sa nature, par son origine, par son nom de famille, par sa famille, par. Non. Le prophète alayhi salatu wa salam nous a enseigné, nous a éduqués et nous a dit innama al-ilm bit-ta'allum. Wa innama al-hilm bit-tahallum. La science vient avec l'apprentissage. N'est-ce pas? Et la longanimité ou bien la douceur et le fait de ne pas se précipiter à agir, ça vient avec son apprentissage et sa pratique. C'est-à-dire avec l'entraînement, la demande à Allah Azzawajal, avec l'endurance, avec l'éducation de l'âme, tu réussis à atteindre ton but. Et si tu ne l'atteins pas dans son entièreté, tu en atteindras une partie. Tu en atteindras une partie. Et le prophète sallam dit, wa man yataharra al-khayr yu'ta. Et celui qui fait tout pour atteindre le bien, qui vise le bien, il lui sera accordé. Wa man yatawaqqa sharra yuqa. Et celui qui tente de se prémunir du mal et fait toutes les causes pour ne pas être touché par cela, en sera préservé. Et le détenteur de l'énorme grâce dans tout cela est qui? Est Allah. Donc, le secret est également Ad-Dua. Il faut demander à Allah Azza wa Jal de nous accorder un bon comportement, de nous accorder la maîtrise. Naam. Ça, c'est la première remarque. C'est de ne pas se cacher derrière les origines et la famille. Et nous, on est comme ceci et nous, on est comme cela. D'accord? La deuxième remarque, c'est « Oui, mais c'est lui qui m'a cherché. Oui, mais c'est elle qui me provoque. » Ça, c'est ce qu'on appelle les circonstances. Mais elles ne sont pas des excuses auprès d'Allah Azza wa Jal. C'est ce qu'on appelle des circonstances. Mais elles ne sont pas des excuses. Elles ne sont pas des excuses. Dis-toi que la personne qui est en face de toi est malade. Tu veux réussir ton épreuve, dis-toi qu'elle est malade. Et que Shaytan l'utilise comme une arme contre toi. Tu vas te concentrer sur qui? Sur le coup ou sur celui qui tient l'arme dans sa main? Tu dois te concentrer sur celui qui tient l'arme dans sa main. C'est lui qui l'utilise. Alors, ta protection contre les Shaytan, fasta'idh billah. Allah Azza wa Jalla te dit, fasta'idh billah. Si le shaitan te tente, fasta'idh billah. Cherche la protection et le refuge auprès d'Allah. C'est amer, c'est difficile. Mais si tu assouvis ce que désire ton âme, le désir de vengeance, le désir de lui rendre la monnaie de sa pièce, le désir de dominer, parce que la personne t'a mal parlé, manqué de respect, dénigré, opprimé, et ainsi de suite, sur le coup, tu vas jouir de cela, mais après, comme tu es un croyant, tu vas regretter. Et tu auras plus mal que le plaisir que tu auras pris à te venger. Naam. Celui qui fait du mal et qui est croyant, il sera touché de regret. Il sera touché de regret, il va souffrir. Il va avoir une amertume dans son cœur. Ajoute à cela que tu devras te repentir. Ajoute à cela que tu devras demander pardon. Naam. Et tu te seras plus humilié en demandant pardon auprès de la personne que tu as terrassée, que tu es plus forte qu'elle. Tu seras plus humilié en lui demandant pardon que l'humiliation que tu aurais subie en endurant face à son injustice et en te contenant et en te maîtrisant. Là, tu vas devoir aller vers elle. Tu vas devoir dire, je t'ai causé du tort et je te demande pardon. Et certaines personnes sont pleines d'orgueil, même si elles sont faibles. Le prophète sallam dit, n'entre pas au paradis celui qui a le poids d'une petite fourmi d'orgueil dans le cœur. Parce que la créature ne mérite pas d'être orgueilleuse. Non, d'être pleine de fierté, alors qu'elle est pleine de défauts. L'orgueil empêche certaines personnes de demander pardon. Parce que pour elles, c'est une humiliation chez la créature. Au lieu de penser que c'est une humiliation face à mon Seigneur qui lui va m'élever. Le prophète me dit, « Man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah. » Celui qui s'humilie pour Allah, Allah l'élève. Non. Quant à l'humiliation face à la créature, si elle ne fait pas partie, par exemple, de s'humilier devant ses parents, ou l'époux, ou ainsi de suite, l'enseignant, c'est louable. Mais l'homme n'aime pas s'humilier devant les autres. En assouvissant ton désir de vengeance et de terrassement de l'autre, tu seras amené en tant que croyant à revenir vers cet autre et à t'humilier devant lui. Donc, en pensant à tous ces sens-là, bi'idhnillahi azza wa jal, tu auras les causes suffisantes pour pouvoir te contenir ta colère. C'est une fierté. C'est une fierté. Donc, il faut corriger les sens. Naam, il faut corriger les mauvaises compréhensions. Il faut corriger les mauvaises compréhensions. Le fort, c'est pas celui qui est au quartier, lorsqu'il vient, les gens ont peur de lui. Non, c'est pas un fort. Lui, c'est un transgresseur.
C'est un injuste. Le vrai fort, quand il arrive au quartier, on se réjouit de lui, de le voir. Parce que de lui, on attend le bien et on se voit en sécurité face au mal. Et on se dit, s'il y a un injuste, lui, après Allah Azzawajal, va nous défendre. Quant au fort dans le sens des mauvaises personnes, il arrive, il fait du tort, il fait du mal, il opprime et on a peur de lui, on le redoute. Quand il rentre, on a peur. C'est qu'il est dans l'injustice et il s'en faut de peu pour qu'Allah Azzawajal ne le brise. Et je me souviens d'une personne qui avait ses traits et ses caractéristiques. Et lorsqu'il venait, les gens avaient peur de lui. Naam. Et il était dans le haram. Et son visage était plein de pénombre, sombre, noir. Et il vendait du haram. Et il faisait vendre le haram. Et il encourageait les gens à vendre le haram. Naam. Un jour, il a été retrouvé mort et humilié. Un jour, il a été retrouvé mort et humilié. Les exemples sont très nombreux. Des gens qui causaient beaucoup de tort, et certains se sont retrouvés morts. D'autres se sont retrouvés handicapés. D'autres se sont retrouvés humiliés. L'injustice, elle ne va jamais loin. Et rappelle-toi, pour finir, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ. Et ne pense pas qu'Allah soit inattentif à ce que font les injustes. Mais il ne fait que retarder leur délai dans un jour où les regards seront bouleversés. Les regards seront bouleversés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Al-dhulmu dhulumatun yawm al-qiyamah. L'injustice, c'est les ténèbres le jour de la résurrection. L'injustice, c'est les ténèbres le jour de la résurrection. Naam. On s'arrête sur cela. Wa sallallahu wa barik على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.